quelles sont les différentes options. Évidemment, une question de ce genre doit effectivement comprendre l'arrière-plan de l'ensemble des tendances de la société. Et donc, il faut d'abord que j'aie une petite introduction. On pourrait dire, en reprenant un enseignement du Rav Kook, qu'il y a une sorte de triangle. Un triangle pour ce qui est les préoccupations humaines. Voilà. Dans toute société, et la société juive inclue, il y a trois sortes de préoccupations. Il y a une préoccupation d'ordre religieuse, une autre d'ordre national, et encore une autre universelle. Toute société suscite, si vous voulez, ces trois sortes de préoccupations. Et certains sont effectivement intéressés par les choses de la religion. Ou pourrait-on dire, dans un terme un peu plus noble, la sainteté, le Kodesh. L'autre préoccupation, certains se disent, bon, le Kodesh, moi, j'y comprends pas grand-chose, mais l'intérêt national, qui peut se traduire entre autres, par exemple, par le patriotisme ou des choses de ce genre, ça m'intéresse. Et c'est là-dessus que je fonde mon existence. Et donc, je ferai un parti politique qui va s'occuper de nationalisme. Il y a une troisième préoccupation qui dit, moi, je n'y comprends pas grand-chose en histoire de religion, ni en histoire de nationalisme. Pour tout vous dire, moi, ça ne m'intéresse pas à des masses. Je ne suis pas très chaud pour ça. Mais je suis intéressé par l'identité humaine dans son ensemble, ce qu'on appelle parfois le cosmopolitisme ou bien l'universalisme. En tout cas, je suis intéressé par ces choses-là. Et ça peut se traduire finalement en trois camps. Ça peut également devenir des partis politiques, des organisations, des choses de ce genre. Alors, pour être extrêmement schématique et extrêmement donc imprécis, on peut dire que c'est ce qu'on appelle les religieux, la droite et la gauche. Voilà. C'est comme ça que c'est présenté aujourd'hui. C'est évidemment faux, parce que la réalité est toujours très nuancée et très entremêlée, mais on peut dire qu'il y a trois pôles. Par exemple, je voudrais rappeler à ce propos, il y a quelques années, il y a eu un débat houleux à la Knesset à propos du roi David. Un des membres de la Knesset a déclaré, sur la tribune de la Knesset, qu'il ne s'identifiait pas toujours avec David Ameller, surtout avec l'histoire de Bathsheba. Alors évidemment, la Knesset est rentrée en tourbillon. Des religieux ont dit que c'était un scandale, etc. Bon. Le lendemain de ce débat à la Knesset, se fait interviewer une parlementaire du nom de Yael Dayan, la fille de Moshe Dayan, extrême gauche, féministe, anti-religieux, tout ce que vous voulez. Elle dit à la radio, écoutez, il y a quand même un problème avec la Bible. C'est que les religieux se sont accaparés la Bible parce qu'ils sont cléricaux et restreints. Voilà. Ils ont pris de la Bible toute la dimension cléricale et sacrale. Et puis, la droite, ils se sont inspirés de la Bible pour justifier leur tendance fascisante et raciste, et patriotiste chauviniste. Alors, laissez-nous à nous, les gauchistes antireligieux, laissez-nous quand même la Bible pour y voir la dimension humaine. Intéressant quand même. Intéressant de voir que, même chez quelqu'un qui est violemment opposé finalement au message classique de la tradition, il y a quand même une tentative de se relier d'une manière ou d'une autre à la tradition d'Israël, dans ce cas-là d'universel. Et donc elle disait que David se soit rendu coupable de péché avec Bathsheba, ça le rend humain, donc c'est pour ça que nous l'aimons. Vous voyez, c'est un peu tordu, mais enfin c'est comme ça que ça marche. Donc si vous voulez, il y a ces trois tendances-là, et ça s'exprime en partis politiques, ça s'exprime en beaucoup de choses. Maintenant, tout ça, c'était donc pour bien situer notre sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le monde religieux, les rabbins, bon, plus précisément l'orthodoxie. Et dans l'orthodoxie, nous trouvons, disons, on pourrait dire une clé. Il y a plusieurs manières de diviser les différentes factions. Là, je voudrais, disons, pour que ce soit bien clair, situer ça autour d'une notion, le sionisme. Quelle est la position des différentes factions du monde religieux par rapport au sionisme? Voilà. Alors, vous avez, on pourrait faire ça en forme de, je ne veux pas dire de croix. Vous prenez comme ça deux lignes qui s'entrecoupent. Hein, voilà. Alors, vous avez, d'habitude on met ça comme ça. Vous avez d'une part, par exemple, le Rav Kook. Et vous pouvez associer au Rav Kook un mouvement comme par exemple le Mizrahi. Le Mizrahi est un mouvement sioniste religieux qui a une tradition politique, c'est devenu à un moment de son histoire le Mafda, le parti national religieux. Il y avait des rabbins qui étaient à la tête de ce mouvement-là, par exemple le Rav Reines, le Rav Maimon. Alors d'habitude on met le Rav Kook et le Rav Maimon par exemple dans le même côté. D'autre part, vous aurez l'opposition, ce qu'on appelle le monde Haredi. Dans le monde Haredi, alors on parle d'une part de, par exemple, du rabbi de Satmar, violemment antisioniste, et on pourrait mettre dans le même sac, si vous voulez, le Rav Shach, par exemple. Le Rav Shach ou le Chazon Ish, qui étaient des grands maîtres de, du mouvement Haredi Agudat Israël, qui a pour capitale Bnei Brak. Voilà. Alors, donc, il y a une sorte de coupure qu'on fait comme ça, d'une certaine manière. C'est une ligne verticale qui mettrait d'une part, par exemple, le Rav Kook et le Rav Maimon, et d'autre part, le Rabbi de Satmar et le Chazon Ish. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les sionistes et les Haredim. Mais en vérité, c'est très superficiel, cette division. La division véritable est horizontale. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait donc deux lignes. La division horizontale fait qu'en vérité, le Rav Kook et le Rabbi de Satmar sont à mettre d'un côté, et de l'autre côté, vous avez le mouvement Agudat Israël et le mouvement Mizrahi. Alors, pour bien comprendre pourquoi je dis une chose qui a l'air assez surprenante, je vais quand même vous expliquer ça un peu plus dans le détail. Et bien que nous soyons sur Internet, vous avez le droit absolu de poser des questions, de me casser les pieds au milieu du cours. Eh bien, d'après le Rav Kook, c'est quoi l'État d'Israël? C'est quoi le sionisme? Eh bien, d'après le Rav Kook, eh bien, le sionisme, c'est de ça dont parlaient les prophètes. C'est ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance d'Israël. C'est ça qui a été annoncé et qui a été attendu pendant des milliers d'années. Eh bien, enfin, Baruch HaShem, Dieu nous a libérés par l'intermédiaire de son serviteur Ben Gurion, et nous a donné l'État d'Israël. Voilà. Oui.
Mais le mot sioniste en lui-même, le mot en lui-même, il n'a pas de signification réelle.
Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire quoi?
Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que chaque personne, si on prend en compte chaque personne qui doit définir le mot sioniste.
Bon, alors nous allons également avoir un problème, une définition du mot sioniste, pour savoir de quoi on parle. D'accord? Parce que chacun va se dire, moi je suis plus sioniste que toi. Il faut savoir qu'est-ce que l'on entend par le sionisme. Ça, c'est une question en soi, je vais bientôt en parler. D'accord? Mais disons que pour le Rav Kook, le sionisme, le mouvement sioniste, la réalisation politique de l'indépendance d'Israël sur sa terre, le retour des exilés, eh bien tout cela, c'est de ça dont parle la tradition quand elle parle de Géoula. Donc si vous voulez, l'État d'Israël dans cette vision-là est hautement saint. D'accord? Du point de vue du Rabbi de Satmar, c'est exactement le contraire. Le Rabbi de Satmar est à la tête de cette mouvance qui considère que l'État d'Israël est un péché. Il est interdit de fonder un État. Non seulement c'est une transgression grave, parce que ça remet en question la toute-puissance du Créateur. Vous comprenez que pour l'abbé de Satmar, faire un État, c'est se révolter contre Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est le dirigeant, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir. Et donc établir un pouvoir quel qu'il soit, même religieux à la limite, c'est une révolte contre le Créateur. Et donc, de ce point de vue-là, l'État d'Israël, non seulement ce n'est pas la Géoula, c'est ce qui retarde la Géoula. C'est-à-dire, tant que l'État d'Israël existe, le Mashiach ne peut pas venir. Et donc, il faut absolument, c'est impératif pour le Rabbi de Satmar, que cet État disparaisse. De quelle manière, c'est pas très clair, il doit disparaître pour enfin permettre au Mashiach de venir. Alors, les Natori Karta se situent exactement dans cette mouvance-là. Bien que les Naturi Karta sont à l'origine, ils appartiennent à une autre division, ce qu'on appelle les Mitnagdim, tandis que le rabbi de Satmar fait partie des Chassidim. Mais, si on veut, ça, du point de vue de la position par rapport au sionisme, c'est la même position. D'accord ? Bon, maintenant, on peut dire de certains points de vue. Oui ?
Ce qu'on voit, c'est que, d'accord, donc ils attendent la destruction de l'État d'Israël pour pouvoir.
Oui, pour eux, l'État d'Israël est une parenthèse douloureuse.
Donc, qu'est-ce qui doit se réaliser après le Mashiach, la repassion d'un autre État d'Israël ?
Non. Le Mashiach vient, il régnera. C'est-à-dire, le Mashiach, lui, a le droit de régner parce que c'est Dieu qui le nomme. Mais tout autre régime politique, même s'il était entièrement tenu en main par des rabbins, des tzadikim, serait disqualifiable. Donc on peut dire, d'un certain point de vue, par exemple, le fameux livre du rabbi de Satmar, qu'on appelle Vayoel Moshe, le livre antisioniste bien connu, est en vérité, si on le lit bien, une attaque contre les rabbins Haredim qui participent aux élections en Israël. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est pas contre les rabbins du Mizrahi ni contre le Rav Kook, c'est contre des Haredim que ce livre a été écrit. Mais donc, je soutiens qu'en vérité, le Rav Kook et le Rabbi de Satmar ont une approche similaire. Bien que les conséquences, les conclusions sont opposées, puisque le Rav Kook considère, et il a raison, que l'État d'Israël, c'est la Géoula, et le Rabbi de Satmar considère que c'est contre la Géoula, il y a quand même une similitude d'approche très importante. C'est que pour les deux, l'État d'Israël a une signification. Soit positive, soit négative. Soit divine, soit satanique. C'est-à-dire pour le rabbi de Satmar, par exemple, l'État d'Israël, c'est le Satan qui le fait. Vous me comprenez ? La guerre des six jours, la victoire des six jours, c'est encore ce qu'on appelle Maasé Satan, une autre illusion satanique. Non, c'est très sérieusement dit comme ça, hein. Donc il y a une tendance vers le dualisme. Mais quoi qu'il en soit, du point de vue du Rav Kook et du point de vue du Rabbi de Satmar, l'État d'Israël a une signification, et si vous voulez, ça s'insère dans quelque chose d'encore plus vaste, c'est que l'histoire a une signification du point de vue du judaïsme. C'est-à-dire un peu ce que dit le Kuzari. Le Kuzari dit, Dieu se manifeste à travers l'histoire, pas à travers la nature, comme disent les philosophes, il se manifeste à travers l'histoire des hommes, et en particulier à travers l'histoire d'Israël. Donc pour le Rabbi de Satmar, l'État d'Israël est un événement historique, important, catastrophique de son point de vue, mais important quand même. Donc on peut dire qu'il se situe dans la même vision. J'irai même plus loin. Pour le rabbi de Satmar, l'État d'Israël a le statut halakhique de malchut. C'est-à-dire que c'est véritablement un État. Avec tout ce que ça implique. Et c'est pour ça que c'est grave. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un État. C'est-à-dire si l'État d'Israël n'avait pas ce qu'on appelle... C'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment comme ça. Si l'État d'Israël n'avait pas le statut légitime dans la halakha de Malchut, eh bien, le rabbi de Satmar l'accepterait peut-être. Mais c'est parce que c'est véritablement une Malchut que c'est interdit. Je veux dire une conséquence très intéressante. Vous savez que nous sommes en année de Shemitah, l'année sabbatique. Il y a tout un débat pour savoir est-ce que l'on a le droit de contourner les interdictions agricoles de la Shemitah qui interdisent de travailler la terre pendant la Shemitah en vendant les terres à des non-juifs. Comme on fait par exemple pour le Hametz. On n'a pas le droit d'avoir du Hametz chez soi à la maison pendant la fête de Pessah, mais si le Hametz a été vendu à un goy, alors on a le droit de le conserver chez soi parce que ce n'est pas notre Hametz. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose pour la vente des terres ? Est-ce que l'on peut vendre des terres à des non-juifs pendant la Shemitah pour contourner l'obligation ? Alors, le Rav Kook dit justement que oui. Le Rabbi de Satmar est parmi les opposants. Mais ce qui est intéressant, c'est l'argument du Rabbi de Satmar contre cela. Contrairement aux autres Haredim, il dit même si on admettait que la vente est légale, malgré tout, la Shemitah reste. Parce que il y a ce qu'on appelle une propriété supérieure de l'État. Étant donné que l'État est un État juif, donc toutes les terres, même celles vendues aux Arabes, appartiennent à des Juifs, parce que ça appartient à un État juif. Et donc, la vente n'est pas valable. C'est-à-dire que la vente n'autorise pas la Shemitah, précisément. Vous voyez, donc, il y a ici une reconnaissance réelle, du point de vue de la halakha, de l'État d'Israël par le rabbi de Satmar, mais il le considère comme négatif. Par contre, vous avez, en opposition à cela, vous avez deux autres positions. Vous avez la position charédite classique, qui est là, aujourd'hui celle majoritaire, celle... Parmi les Haredim, la position majoritaire est celle du Chazon Ish et du Rav Shach, Et d'autre part, vous avez la position, par exemple, du Rav Reines ou du Rav Maimon, et tant d'autres. Ça consiste en quoi? Ou bien du Rav Soloveitchik. Du point de vue des Haridim classiques, je ne parle pas ici du Rabbi de Satmar, qui représente un mouvement bien déterminé et bien précis, dans le Haridisme habituel, ce que l'on dit, c'est que l'État d'Israël n'est pas en soi quelque chose d'abominable, mais c'est une production du chilonisme. C'est une production de la laïque. Et ça a été créé avec l'intention de faire disparaître la Torah. Ben Gurion étant anti-religieux, Herzl n'était pas religieux. Donc, les gens qui ont fondé cet État avaient des intentions malveillantes par rapport à la Torah. Et donc, leur État ne vaut rien. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose contre un État. Un État peut être valable, du point de vue de cette position-là, mais comme ce n'est pas religieux, ce n'est pas bien. Argument, mais alors dans ce cas-là, ils disent, mais il faut quand même avoir des représentants à la Knesset pour pouvoir arracher à cet État ce que l'on peut lui arracher. Par exemple, dispenser nos élèves d'aller à l'armée, avoir de l'argent pour les yeshivas, des choses de ce genre. L'autre position, celle par exemple du Mafdal, est que l'État d'Israël, c'est une très bonne chose. Puisque c'est quand même l'État, un État juif, c'est bien d'avoir un État juif, d'être indépendant. Et puis c'est en Eretz Israël, c'est extraordinaire, Eretz Israël, c'est la Terre Sainte. Donc c'est très bien. Et puis on peut faire beaucoup de bonnes choses avec ça. Donc il faut soutenir l'État d'Israël. Évidemment, il faut faire des efforts pour que les anti-religieux ne fassent pas trop de mal. C'est-à-dire que le débat entre l'Agudat Israël et le Mizrahi porte sur le problème de savoir est-ce qu'il faut s'impliquer parce que, à cause de la partie bonne ou est-ce qu'il ne faut pas s'impliquer à cause de la partie mauvaise. D'accord ? Donc si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est du pragmatique. Et donc, j'affirme, c'est que ces deux mouvements-là sont en fait, ils ont une approche similaire qui ne tient pas compte de ce que l'histoire a une signification. Par exemple tout bête, le rav, par exemple, Soloveitchik, Zichrono Livracha, qui était un des grands maîtres, un des grands dirigeants du mouvement Mizrahi. Le rav Soloveitchik, de Boston, était parmi, et avait grandi dans, son père était antisioniste. Et lui, un jour, il a décidé de quitter l'Agudat Israël et de s'associer au mouvement Mizrahi. Et il explique dans un de ses livres pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et bien, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il faut être moderne. C'est-à-dire pour lui, le Mizrahi représente la modernité. Et comme nous sommes à l'époque moderne, et bien il faut être moderne. Il faut accepter la culture générale, les universités, etc. Et puis, un État, ben c'est une bonne chose un État. Voilà, c'est les deux raisons qu'il donne. Est-ce que c'est la Géoula? Je ne veux pas le savoir. Est-ce que nous sommes dans un temps messianique? Est-ce que c'est l'accomplissement des paroles des prophètes? M'en fiche pas mal. Peut-être oui, peut-être non. Mais ce n'est pas ça ce qui est au centre de ma conscience. D'accord? Comme l'a très bien dit d'ailleurs un de ses élèves, « Zelo omed bemirkaz ha'akara sheli » Ça ne tient pas dans le centre de ma conscience. Voilà. Donc vous avez ici quatre positions différentes. Celle qui a raison, Baruch HaShem, c'est celle du Rav Kook qui dit que non seulement l'histoire a un sens, mais que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans cet état, c'est l'accomplissement des paroles des prophètes. Je voulais dire quelque chose.
Oui, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, genre à propos de Ben Gurion et Herzl. Oui. Ben Gurion dit qu'il était quand même sioniste d'un côté, mais qu'il n'était pas religieux, mais on connaissait l'enlevé de la Torah par rapport à ce qu'il en est. Parce que sinon, jamais ils auraient reconnu à un moment donné. La religion comme elle est, comme elle doit être en réalité.
Je comprends pas. La thèse sioniste non religieuse, c'est que Eretz Israël, ça appartient au peuple juif pour des raisons historiques et culturelles. Point à la ligne. D'accord? Et si on peut associer les religieux à ça, bah pourquoi pas? Mais c'est fondamentalement deux choses différentes. Oui? Maintenant, tout le problème est de savoir, est-ce que on doit considérer la nature de cet État en fonction de l'intention de ceux qui l'ont fondé ou en fonction de l'intention de Dieu? C'est-à-dire, certains vous diront, étant donné que Ben Gurion n'avait pas des intentions pures, donc le sionisme est disqualifié. D'autres vous diront, mais non, on s'en fiche pas mal de savoir ce que lui pense. Ce qui est important, c'est quelle est l'intention du Créateur dans, son, de, quand, dans sa manière de diriger l'histoire.
Enfin, moi, je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait le sioniste qui n'est pas religieux, le sioniste qui est religieux, ils doivent très bien s'associer pour que ça passe à un état
ben, d'accord, ça, c'est la... parfait. Ouais, alors ça, c'est la thèse Mizrahi, ce que tu dis. C'est, il faut faire des associations. Vous, vous n'êtes pas religieux, mais vous êtes sioniste, nous sommes religieux, on va travailler ensemble, ça va marcher. D'accord ? Ça, c'est la position du Mizrahi. Oui, tu voulais dire quelque chose.
Oui,
non, pas du Rav Kouk, du Mizrahi.
Oui. Ma question, c'est beaucoup de ces Rav qui pensent qu'ils sont assez antisionistes, comme vous parliez auparavant, ils sont Ashkenaz. Donc, ma question, c'est très simple. C'est suite à ces 2000 ans de galère qu'on a eu. Ces 2000 ans où on a toujours persécuté les Juifs, il y a eu la Shoah. Pourquoi parler d'intention en se disant est-ce que c'est l'intention de Dieu ou l'intention des Juifs de créer un État d'Israël ? Pourquoi parler d'intention ? Pourquoi pas voir justement les faits et se dire on a besoin d'un endroit où le juif pourra être tranquille et vivre tranquillement ? Pourquoi encore se poser la question à se dire est-ce que c'est le Mashiach ou est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça ? Pourquoi
expliquer la chose ? Tu dis pourquoi poser des questions ? Comme par exemple de savoir si on est dans la Géoula ou pas, alors que les Juifs sont persécutés dans le monde entier, ils ont besoin d'un endroit pour se réfugier. D'accord ? Eh bien, la réponse est tout d'abord parce que cette question m'a été posée. C'est-à-dire, si des gens se posent ces questions, c'est que ça les intéresse. Ça n'intéresse peut-être pas, mais il y a beaucoup de gens ici dans cette salle qui sont intéressés par cette question. Deuxièmement, il ne suffit pas pour se justifier d'avoir été persécuté. C'est-à-dire, c'est une définition négative. Je me définis par rapport à celui qui me persécute. Alors là, contre ça viendrait un argument tel que par exemple celui d'Ahmadinejad, qui lui dit que l'État d'Israël a été fondé pour faire une réparation de la Shoah, il n'y a pas de raison que les Arabes en souffrent. D'accord ? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de droit positif, c'est simplement une réaction négative, finalement, tu n'as pas de justification. Et effectivement, il faut savoir que l'aspiration au retour en Eretz Israël n'a pas été inspirée au départ par une réaction à la persécution. C'est vrai que ça a pu accélérer certaines choses, mais le point de départ, c'est-à-dire que depuis toujours, les Juifs se considéraient comme des ressortissants d'Eretz Israël qui veulent y revenir un jour. D'accord ? Oui ? Et rappelle une chose, il y avait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la yeshiva de Mir, de Lituanie, s'était enfuie au Japon. Et arrivé au Japon, un des préposés, après ils les ont envoyés en Chine, en tout cas le fonctionnaire japonais demande au Rosh HaYeshiva pourquoi est-ce que les Allemands vous persécutent. Réponse du Rosh HaYeshiva au japonais, c'est parce que nous sommes des Asiatiques. Très bonne réponse. Mais ça veut dire que le Rosh HaYeshiva ne se pensait pas européen. C'est-à-dire souvent la thèse qui est défendue aujourd'hui, c'est que Eretz Israël, l'État d'Israël, c'est, il y a eu quelques Européens qui ont été persécutés par d'autres Européens, donc il faut leur donner un petit bout de terre au Proche-Orient dans un endroit où ça ne dérange pas trop. D'accord ? Alors on voit les résultats sur le plan politique aujourd'hui catastrophiques. Oui, vas-y.
Comment est-ce que les catholiques des Allemands, ils se basent sur les mêmes sources, donc, qui sont à droite ? Comment est-ce qu'ils arrivent à des conclusions si différentes ?
Ah. Comment se fait-il que des rabbanim qui ont tous étudié la même Torah arrivent à des conclusions différentes? D'accord? Alors on pourrait te dire, bon, ils ont mal étudié, ceux-ci ont bien étudié, ceux-là ont mal étudié. On peut le dire. Il suffirait d'étudier les textes. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Si on se base sur ce que dit la Gemara dans Maseret Brachot, il faudrait peut-être qu'un jour on étudie ce texte-là, on voit qu'en vérité, il y a quelque chose qui relève de ce qu'on appelle le Shoresh Neshama, la racine de l'âme. Il y a des choses auxquelles je suis sensible et d'autres auxquelles je suis insensible parce que c'est dans la racine de mon être. Et donc même si tu me montres noir sur blanc que c'est comme ça, je dirais non, ben c'est pas comme ça. C'est parce que j'appartiens à une racine de sensibilité différente de l'autre. Et donc ça explique pourquoi même de grands maîtres ont pu se tromper sur ces choses-là. Hein ? Ben, j'ai pas dit que c'est pas de leur faute, parce qu'ils auraient... Non. Se tromper, c'est toujours de sa faute. Mais c'est-à-dire qu'ils ont des circonstances atténuantes. Mais une circonstance atténuante, ce n'est pas absence de... C'est pas innocence. Il y a eu des maîtres parmi eux, parmi les Haridim aussi, qui ont changé d'avis, bien que c'était opposé à leur nature profonde. Mais ils ont admis, ils ont accepté que c'était une erreur. Oui.
C'est un des premières choses à faire à avoir la c'est quand même de travailler ses instincts, de travailler son
mieux. Oui, mais ça ne marche pas toujours. Et là, je voudrais me rapporter à la question qui a été posée tout à l'heure par Jérémy, qui, à propos du fait que la plupart des rabbins antisionistes sont ashkénazes. C'est même bizarre. C'est-à-dire, c'est effectivement la question que je pose. Comment se fait-il que c'est en particulier chez les ashkénazim, à 95% chez les ashkénazim, qu'on a pu trouver le phénomène de l'opposition au sionisme. Eh bien, la réponse est que il y a eu au niveau de l'étude, une scission entre les deux mondes. Dans le monde européen, enfin, Ashkenaz, il y a eu un délaissement de l'étude du Tanakh, de la Bible, au profit de l'étude talmudique. Tandis que dans le monde séfarade, jamais l'étude du Tanakh n'a été abandonnée, et la conséquence est directe. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui ne connaît du judaïsme que la Bible. Il n'a jamais étudié le Talmud, mais il connaît bien la Bible. Il l'a lu d'un bout à l'autre. Il ne peut pas ne pas se rendre compte que ce qui sous-tend le récit de la Bible, c'est l'exil et le retour. C'est ça dont il est question à tout moment. Par contre, si j'étudie le Talmud, imaginez que je ne connaisse que le Talmud et que je ne connaisse pas la Bible. Bien que j'y crois à la Bible, j'entends le Chazan quand il lit la paracha de la semaine dans la synagogue, mais je concentre ma pensée autour du texte talmudique, je risque d'oublier qu'est-ce qui sous-tend l'ensemble du message. N'oubliez jamais que les rabbins du Talmud ont toujours eu comme arrière-plan la Bible. Mais à partir du moment où la Bible est oubliée, eh bien, on risque de tomber dans de l'intellectualisme qui se pose toujours des questions, de savoir est-ce qu'on a le droit d'être vivant ou pas. D'accord ? Donc, on peut dire que c'est ça. Effectivement, dans toutes les communautés juives du monde, où la Bible était profondément étudiée, jamais il y a eu d'antisionisme. Oui.
Est-ce que vous pourriez expliquer l'avis des rabbins sur le sionisme?
Ah. Alors là, maintenant, nous rentrons dans des subdivisions secondaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, où on accepte le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, avec les deux lignes de partage, le problème est de savoir, par exemple, où pourra se situer tel ou tel mouvement. Alors, par exemple, ce qu'il m'a demandé, c'est sur le mouvement Chabad ou Lubavitch, où est-ce qu'il se place dans cette constellation. Eh bien, c'est très simple. Il y a dans le Chabad, il y a dans le principe, il y a identité avec ce que dit le Rabbi de Satmar. Dans la pratique, c'est exactement le contraire. Il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire, la thèse Lubavitch par rapport à l'État d'Israël est exactement identique avec celle de Satmar, c'est qu'il était interdit de fonder l'État. C'est une interdiction basée sur le texte de la Gemara dans Ketubot qui dit que Dieu a fait jurer Israël de ne pas sortir de la galoute de son initiative. Enfin, c'est une interprétation possible. En tout cas, un des premiers rabbins à avoir utilisé ce texte contre le sionisme, c'était le cinquième rabbi de Chabad, le Moharashab. C'est lui qui, dans le fascicule Orla Yesharim, s'est servi de cet argument-là pour dire que le sionisme était interdit. Ça a été publié en 1897, lors du premier congrès sioniste à Bâle. Et finalement, on peut dire que le rabbi de Satmar n'a fait que reprendre cet enseignement. Maintenant, le problème, c'est quelles sont les conséquences à en tirer. Le rabbi de Satmar dit, étant donné que l'État d'Israël a été créé dans le péché, il faut donc le détruire. Et le rabbi de Chabad dit, non, ça a été créé dans le péché, mais il faut le soutenir. C'est-à-dire, une fois que c'est là, c'est là. C'est-à-dire, l'enfant est né. Donc il faut le soutenir, il faut l'aider, bien que ça n'a rien à voir avec la Géoula. C'est-à-dire, par exemple, caractéristique sur le plan politique. Le rabbi de Chabad, le rabbi de Lubavitch, était violemment opposé, fortement opposé, à l'abandon de territoire pour la paix, entre guillemets, n'est-ce pas? Il s'opposait violemment à cela. Au nom de quoi? Pourquoi est-ce que, d'après le rabbi de Chabad, il était interdit de donner des territoires à l'Eretz Israël? Vous avez une idée? Non, pas du tout parce que c'est la terre d'Israël. Parce que c'est dangereux. Et c'est ça l'argument qui est repris, le seul et exclusif argument repris par le rabbi de Chabad, c'est que donner des territoires, c'est dangereux. Pikuach nefesh, on n'a pas le droit de mettre en danger des millions de juifs. C'est le seul argument. Il y avait un refus bien net du Rabbi Lubavitch de se servir comme argumentation du fait que c'est Eretz Israël, ou parce que c'est la Géoula, etc. Contrairement, par exemple, à l'opinion du Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils du Rav Kook, qui, lui, reprenait en permanence cet argument qu'on n'a pas le droit de donner la terre d'Israël parce que c'est la terre d'Israël, indépendamment du fait que ce soit dangereux ou pas, et on n'a pas le droit également de faire reculer ce mouvement de Géoula qui a commencé depuis Herzl, etc. D'accord ? On va donc, c'est, parfois, il peut avoir une position politique identique, mais pour des motivations profondément différentes. D'accord ? Donc c'est ça la position de Chabad. Oui. C'est-à-dire que le mouvement Chabad ne se considère certainement pas comme sioniste, c'est très clair. Oui. Mais attention, c'est un mouvement pro-sioniste, dans ce sens-là qu'ils aiment les sionistes. Ils vont les aider, ils iront à l'armée, ils vont distribuer des beignets pour Hanouka, etc.
Et par rapport à la Géoula, pour la Géoula, elle est arrivée ou pas?
Est-ce que la Géoula est arrivée du point de vue du mouvement Chabad? Non. Pour raison très simple, c'est que le mouvement Chabad a donné une nouvelle définition de la Géoula, qu'on ne connaissait pas auparavant dans le judaïsme, qui est que la Géoula serait un événement d'ordre spirituel, et non pas d'ordre politique. C'est-à-dire que le Mashiach, dans la conception de Chabad, est un personnage mystique, avec un rayonnement spirituel inégalé, qui fait que le monde entier, finalement, fait ce qu'il dit de faire. C'est-à-dire, il est roi, finalement. Le Mashiach devient roi, mais par le biais de la spiritualité, et pas par le biais de la politique. Et donc, le danger, c'est que l'on considère, par erreur, que l'État d'Israël serait le Mashiach. Vous rendez compte l'horreur. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le chassidisme de Chabad, il y a une accélération de la tendance messianique de ce genre-là, jusqu'à la définition du Rabbi Lubavitch comme étant Mashiach.
Parce que le Mashiach est censé reconstruire l'État d'Israël.
C'est-à-dire que, oui, dans la tradition d'Israël, la tradition habituelle, on considère que le Mashiach est un homme politique. N'est-ce pas? Et cette dimension tend à être évacuée dans le chassidisme, en particulier dans le chassidisme de Chabad, et surtout l'insistant sur la personne du Mashiach plus que sur le processus, à tel point que il est considéré qu'il faudrait en fait attendre le Mashiach pour faire l'État d'Israël. Or, les sionistes l'ont fait avant que le Mashiach vienne, dommage. Ils ont fait du retard. Mais on peut s'arranger si tout le monde met les téfilines, si tout le monde devient Lubavitch d'une manière ou d'une autre, eh bien ça fera accélérer les choses et alors le Mashiach viendra. Et on peut voir par exemple dans la liste des arguments comme quoi la Géoula est proche, d'ailleurs ce que dit toujours le Rabbi de Chabad, non pas la Géoula est venue, la Géoula est proche. Alors ils amènent des tas de choses, par exemple que les juifs du RSS sont libérés, qu'il y a que le président américain a fait une guerre à l'Irak pour libérer le Koweït, donc il y a une abondance de justice dans le monde. On voit qu'il y a beaucoup plus de juifs qui font la Torah. Et l'État d'Israël n'existe pas.
Il y a d'autres personnes considérant que le Rabbi Lubavitch est le Mashiach. Pourquoi est-ce qu'ils ne considèrent pas alors que c'est le temps de venir en Israël?
Ah, pourquoi est-ce que ceux qui considèrent que le Rabbi de Lubavitch est le Mashiach ne considèrent pas que c'est le moment de venir en Eretz Israël? Parce que le Rabbi ne l'a pas encore fait. Lorsque le Rabbi viendra, tout le monde viendra avec lui. Tu dis qu'il est mort. Non, d'après eux, il n'est pas mort. Mais enfin, le temps viendra et il dira, ben voilà, je suis là, venez avec moi. D'accord ?
Mais pourquoi il croit ça ? Parce que je crois dans son testament, le mari a marqué qu'il n'était pas le Mashiach.
Non, là ça c'est des raccourcis un peu trop rapides. Alors, je ne sais pas, le sujet de notre étude aujourd'hui n'est pas tellement de rentrer dans les détails de l'affirmation Lubavitch. Le rabbi n'a pas dit dans son testament, je ne suis pas le Mashiach. Il n'y a pas de phrase de ce genre, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, dire pas tout le monde dans Chabad pense que le Rabbi est le Mashiach, mais ce qui est unanime dans ce mouvement-là, c'est qu'il considère que le Mashiach, c'est quelqu'un qui ressemble au Rabbi. C'est-à-dire qu'il serait messianisable. C'est-à-dire, étant donné que le Rabbi de Lubavitch était un grand dirigeant spirituel, le plus grand de sa génération d'après eux, donc c'est normal qu'il soit le Mashiach. Tandis que, si on veut, d'après ce que disent les textes, enfin la tradition d'Israël depuis des textes, enfin ce que je défends en tout cas, c'est que le Mashiach a toujours été un personnage politique et non pas un personnage spirituel, même s'il peut avoir également des dimensions spirituelles. Je me rappelle très bien d'ailleurs, une fois à la radio, c'était il y a 25 ans de ça, on avait parlé de ça, moi et un chassid de Lubavitch, j'avais expliqué effectivement que le Mashiach est un personnage politique. Mon interlocuteur avait été très choqué, il avait dit, quand on étudie les textes sérieusement et qu'on s'en imprègne, on se rend bien compte que le Mashiach est un rave. Il n'a pas cité de source. D'accord ? Bon. Donc ça c'est... maintenant vous pouvez prendre des positions telles que par exemple chasse. Par exemple, le mouvement chasse du Rav Ovadia Yosef. Alors c'est très intéressant de voir qu'il y a ici, c'est un mouvement qui en fait est hétéroclite. Il y a une différence entre la classe dirigeante du parti chasse et le public de chasse. La classe dirigeante du parti chasse est la classe politique, enfin rabbinique, qui dirige ce parti, s'identifie un peu à ce qu'on appelle Agudat Israël, c'est-à-dire le mouvement dans le genre du Chazon Ish, qui a une position, disons, de recul par rapport à la société chilonite, sans être anti-sioniste. Au niveau du public qui compose chasse, le public populaire, il a, si vous voulez, un substrat fondamental sioniste, bien que de plus en plus dévié par ses dirigeants vers le charédisme. D'accord ? Donc c'est un peu comme ça. Il y a parfois mi-sel, mi-poivre. Par exemple, on voit des rabbins qui aujourd'hui sont dans chasse, qui pendant très longtemps ont dit quand même le Hallel pour Yom HaTzmaout, etc. Donc ces choses-là ne sont pas très claires. Donc là, si vous voulez, la division qu'on a donnée aujourd'hui, jusqu'à présent, par rapport au sionisme, ce sont ces quatre mouvements-là. Oui ?
Mais ces gens-là qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël et qui parlent de problèmes juifs, qui font abstention de l'État d'Israël, ils vivent quand même dans un monde où Israël est quand même bien présent. Il y a quand même une économie, il y a quand même le shekel, tout ça, c'est pas fictif.
Oui.
Je veux dire, comment ils voient les choses ? Je veux dire, ils vivent dans un monde où Israël existe quand même.
Bon, alors tu dis, par exemple, des gens qui s'opposent au sionisme vivent dans un monde où Israël existe. Et alors ?
Même les antisémites, ils savent très 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 bien qu'Israël existe.
Oui, mais personne ne dit que l'État d'Israël n'existe pas. Tu pourrais savoir comment le juger. Par exemple, il y a par exemple des députés Haredim à la Knesset. De leur point de vue, la Knesset, c'est exactement équivalent au Parlement polonais. Il y avait dans le Parlement polonais, dans les années 20-30, entre les deux guerres mondiales, il y avait des représentants juifs au Parlement polonais qui étaient habillés avec un Streimel, avec une grande barbe, une capote et tout le reste, avec des péotes, et qui parlaient le yiddish. N'est-ce pas ? Ils étaient des députés du Parlement polonais, ils étaient là pour défendre les intérêts de leur secteur, c'est-à-dire le secteur juif. Alors, ils disent également, c'est la même chose de la Knesset, il y a des intérêts sectoriaux, ceux du judaïsme authentique, de leur point de vue, l'orthodoxie, etc. Et donc, ils sont à la Knesset pour défendre ces intérêts-là. Ils le disent d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, ce sont leurs propres déclarations. D'accord ? Oui ?
Quelle est la Géoula attendue par le mouvement de Satmar ?
Ah, quelle est la Géoula attendue par le mouvement de Satmar ? Eh bien, ils attendent que se manifeste le Mashiach, et qu'il soit nommé par Akadosh Baruch Hu lui-même comme roi d'Israël.
Mais qu'est-ce que c'est le Mashiach
Le Mashiach, je pense que ce n'est pas très loin de ce que pense le Rav Kook, de leur point de vue. Contrairement, par exemple, à ce que dit le mouvement Chabad. De leur point de vue, c'est un roi. C'est un roi, donc un personnage qui est doué du pouvoir politique, qui va reconstruire le Beit HaMikdash, qui va amener la paix dans le monde, qui va amener la prophétie, etc. Mais il faut, pour l'instant, attendre. On n'a pas le droit d'entreprendre quoi que ce soit sur le plan actif pour l'amener. Et là, ça se rapporte à une autre division dont je voudrais parler. C'est le rapport à la galoute. C'est-à-dire, de même que vous avez ce problème de la relation envers l'État d'Israël et le sionisme, quel est le rapport envers la galoute ? Alors là, nous trouvons déjà, dès le XIXe siècle, des positions très importantes, très intéressantes. Rappelons-nous que jusqu'au XIXe siècle, les Juifs étaient soumis à une oppression dans tous les pays d'exil. Et puis, il y a eu un moment, ce qu'on appelle l'émancipation, fin du XVIIIe, début du XIXe et pendant tout le courant du XIXe siècle, les Juifs ont traversé une période d'émancipation sociale. Ça veut dire quoi l'émancipation ? En gros, ça veut dire que les nations d'Europe et d'Amérique ont accordé aux Juifs qui vivaient dans leur pays la citoyenneté du pays. C'est-à-dire les Juifs de France sont devenus des Juifs français. Et ça, c'est une transformation radicale. C'est-à-dire, jusqu'à la Révolution, les Juifs de France étaient considérés comme des ressortissants du royaume de Juda, en exil et sous protection du roi de France. Ils n'étaient pas considérés comme des Français. D'ailleurs, ça explique quelque chose d'assez incroyable. Alors qu'en France, il était interdit d'être protestant, parce qu'il y avait le principe qu'un seul roi, donc une seule religion, on avait le droit d'être juif. Parce que les juifs n'étaient pas des Français. Vous comprenez ? Tandis que le protestant était un Français, donc il n'avait pas le droit d'être autre chose, d'avoir une autre religion que celle de son roi. Et c'était un peu comme partout comme ça, un peu partout comme ça. Par exemple, chez les Turcs, par exemple, en Afrique du Nord, dans la communauté d'Alger, eh bien, les Juifs de la communauté d'Alger étaient dirigés par un homme qu'on appelait le Muqaddam en arabe, ou accessoirement, il était appelé chef de la nation juive. C'est-à-dire, c'était une petite communauté, la communauté. Il y avait combien ? Quelques milliers de juifs. Alors, le dirigeant de la communauté était appelé chef de la nation. Parce qu'il était représentant d'une autre nation auprès du Bey ou du Dey d'Alger, etc. Et l'émancipation a changé ça. Et après, les juifs sont donc devenus des citoyens de leur pays. Ils ont pu se croire français, se croire allemands, etc. À partir de ce moment-là, il y a deux positions par rapport à ça. Une position qui a commencé à apparaître très tôt dans le XIXe siècle, celle du Rav Al-Khalaï par exemple, qui est que puisque nous sommes arrivés à l'émancipation, ça veut dire que c'est le moment de revenir en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est un début de libération pour retrouver une certaine dignité, pour se préparer au retour. C'était par exemple la position de certains philanthropes, tels que par exemple Moïse Montefiore, qui était un juif très important et très riche de Londres, qui a construit beaucoup en Eretz Israël, avant le sionisme d'ailleurs, avec cette idée-là que puisque nous sommes émancipés, eh bien nous allons maintenant réclamer auprès des nations notre droit à revenir en Eretz Israël. Avant Herzl, hein, je le rappelle. C'était une manière, plus voilée, mais c'était comme ça que c'était conçu. Au même moment, en Allemagne, il y a un grand maître du judaïsme allemand, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, d'une part, acceptait à bras ouverts la modernité et l'émancipation, c'est-à-dire qu'il considérait que c'était un bienfait, et d'autre part, il était violemment opposé au sionisme. Ça s'appelait pas encore le sionisme, mais enfin, c'était ce mouvement de retour qu'on appelait les Chovevet Zion de l'époque. Et l'argument du Rav Hirsch, c'est que puisque maintenant il y a l'émancipation, ça veut dire que enfin le moment est venu de vivre en galoute. C'est-à-dire la mission d'Israël, c'est de vivre parmi les nations. Et en particulier parmi les nations éclairées, de s'imprégner de leur culture. La haute culture allemande de l'époque, par exemple, d'être des fidèles du Kaiser allemand, et d'imprégner les nations, grâce justement à notre dispersion parmi les communautés, nous allons donner aux nations un message de sainteté et de morale. Et alors, l'Allemagne sera sanctifiée. Elle sera moralisée. Et les Allemands seront tellement contents qu'ils nous diront merci. D'accord ? Ça s'appelle être démenti par l'histoire, ça. Enfin, en tout cas, donc de son point de vue, étant donné que le moment est venu pour Israël de vivre en galoute, alors il faut prendre ça au sérieux. Et donc, il le dit très clairement dans plusieurs de ses textes, il est interdit de faire une action politique ou réaliste sur le terrain qui permettrait le retour d'Israël sur sa terre. Il dit, viendra un temps où les Juifs quitteront les pays de leur exil et reviendront sur leur terre, mais ça sera uniquement quand Dieu le dira et quand il nous amènera par ses propres moyens. D'accord ? Mais nous, nous n'avons pas le droit de faire quoi que ce soit. Il emploie également l'argument des trois serments contre le sionisme. Alors donc, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch représente également cette tendance-là, mais disons d'une manière beaucoup plus polissée, de ce qu'on appelle la néo-orthodoxie francfortienne. Son intention était, entre autres, quand il utilisait ces idées-là, c'était de lutter contre le mouvement réformiste qui était très fort en Allemagne à l'époque. D'accord ? C'est-à-dire que le mouvement réformiste avait disait que puisque nous sommes insérés dans la culture générale, nous n'avons plus besoin de la tradition. Alors l'argument du Rav Hirsch, non, pas du tout. Nous avons besoin de la tradition puisque c'est le moment de sanctifier l'Allemagne. Oui.
Justement, ce mouvement libéral, il s'est comment par rapport au
sionisme ? Alors, le mouvement libéral ou réformiste, libéral, c'est comme ça qu'on dit en France. N'est-ce pas ? Aux États-Unis, on dit réformiste ou conservatif. Pendant très longtemps, le mouvement réformiste a été non seulement anti-sioniste, mais anti-Eretz Israël tout court. C'est-à-dire que même les religieux anti-sionistes ne sont pas contre la sainteté d'Eretz Israël, bien au contraire. Et dans les mouvements réformistes, il y a eu une opposition à toute attache nationale, à tel point même qu'ils ont supprimé de leur rituel de prière toute mention d'Eretz Israël. Non seulement les mentions concernant le Beth Amikdash et les sacrifices, mais Eretz Israël a cessé d'exister. Et donc il y a toujours eu une sorte d'animosité entre le mouvement réformiste et le mouvement sioniste. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, en Eretz Israël, de nos jours, la réforme n'a pas tellement pris pied. Il y a quelques tentatives, mais de manière générale, c'est le judaïsme orthodoxe qui est considéré comme le légitime en Israël. Et ça, il y a des raisons historiques. Ce n'est que beaucoup plus tard, il y a quelque chose comme 35 ans à peu près, qu'il y a eu une décision du mouvement réformiste de changer de position par rapport à ça, et que maintenant ils se définissent comme sionistes. Comme sionistes de galoute, mais sionistes quand même. Dire sympathie par rapport à l'État d'Israël, n'allons pas trop loin, il ne s'agirait pas de les rendre fidèles à chaque arpent de terre d'Eretz Israël. Ils sont pour un compromis territorial, malheureusement, etc. Mais il y a déjà ils se définissent en tout cas comme sionistes, et donc ils sont maintenant introduits dans l'organisation sioniste mondiale, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'Agudat Israël, c'est ce qu'on appelle le Monde Haredi classique. C'est-à-dire, l'Agudat Israël a été fondée en 1912. Non, pas en 1912, que je dis n'importe quoi. 1902 ou en 1912 ? En tout cas, bon, j'ai oublié. En tout cas, l'Agudat Israël a été fondée d'une manière générale, d'une certaine manière, on peut dire qu'en réaction au sionisme. C'est-à-dire, étant donné que Herzl avait réussi à faire une organisation sioniste mondiale, les rabbins de l'époque se sont dit il faut faire quand même une organisation internationale du judaïsme religieux. Et donc, ils ont mis comme bureau directeur, si on peut, il s'appelle la Moetzet Gdolei HaTorah, le conseil des grands de la Torah. Et ça n'a pas toujours été, disons, ouvertement anti-sioniste. Il y a eu différentes positions dans la Agudat Israël elle-même. Je tiens à rappeler, par exemple, que lorsque le Rav Kook était parti en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est parce qu'il était invité au congrès de l'Agudat Israël. D'accord ? Ce n'est que par la suite que les choses ont évolué. Mais au début, c'était simplement l'intention de réunir tous les religieux ensemble.
Aujourd'hui, le Rav Kook n'a pas son parti politique.
Est-ce que le Rav Kook aujourd'hui a son parti politique ? On peut dire qu'au sein du Mafdal, il y a toujours eu, du Parti national religieux, il y a toujours eu deux mouvances. Celle des gens comme Hanan Porat, Boucher Mounim, etc., qui représentaient, si l'on veut, cette mouvance du Rav Kook, qui considère qu'on sommes dans des époques de Géoula, et les nationaux religieux, disons, classiques, comme Zvulun Amer et le Rav Shapira, etc., le Rav Chaim Shapira, je ne parle pas du Rav Shapira, qui considéraient que le sionisme, c'est bien, être religieux, c'est bien, pas la peine de faire de ça de la Géoula. Et ça explique beaucoup de tensions qui existe jusqu'à ce jour au sein des partis politiques nationaux religieux. Une des dernières retombées de ce débat-là, c'est la position de Efi Etam, justement. Efi Etam, le député, qui a aujourd'hui s'est séparé du Mafdal pour fonder son propre parti, etc. Ça représente toujours ces mouvances-là. Oui ?
Il y a beaucoup de courants religieux en Israël qui ne reconnaissent pas que l'armée d'Israël est quelque chose de... ça représente la vie d'Israël, c'est quelque chose qui est indispensable à Israël. Et il y a beaucoup de partis qui ne voient pas l'État d'Israël. Ils disent oui, ils pensent que les Juifs devraient plutôt étudier la Torah dans une yeshiva que d'aller à l'armée.
Oui, effectivement.
C'est inconscient ou c'est...
Non, ce que tu dis, voilà, c'est tu dis qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont oublié, même des rabbins, que l'État d'Israël existe. C'est vrai. Et donc, tu demandes quelle est leur position par rapport au service militaire. Alors, Pendant, dans les premières années de l'État, la position habituelle, c'était, chez beaucoup de Rashi Yeshivot, qu'est-ce que c'est une armée juive? Mais ça ne va pas à la tête. Les juifs, c'est pas fait pour faire une armée. Enfin, ça n'a rien à voir. Puis en plus, l'armée, c'est un endroit mauvais, etc. Et donc, il n'est pas question d'envoyer nos enfants là-bas. Aujourd'hui, le discours s'est atténué. Et en tout cas, le discours officiel, c'est parce que nous étudions la Torah que les soldats gagnent à la guerre. D'accord? Alors, parfois, c'est sincère. Ça ne l'est pas toujours. Mais l'argument, en tout cas, officiel, employé, c'est ça. Et la position du Rav Tzvi Yehuda Kook, qui était évidemment constamment opposée, c'est que faire l'armée en Israël, c'est une mitzvah, non seulement parce que ça sauve les juifs, mais c'est parce que ça fait partie de la mitzvah de fonder un état en Eretz Israël, d'après le Ramban. Et rappelons que le Rav Tzvi Yehuda toujours citait cet enseignement du Ramban, comme quoi un des 613 commandements de la Torah, un commandement positif en l'occurrence, c'est de fonder la souveraineté d'Israël sur sa terre. Effectivement, le Ramban le dit dans ses suppléments au Sefer HaMitzvot, dans la mitzvah positive numéro 4. Et donc, de ce point de vue-là, lorsque l'État d'Israël a été fondé, c'était une mitzvah. Donc, on aurait dû faire, le jour de la déclaration d'indépendance, une bracha, Asher Kitchanu Bemitzvotav Yetzivanu Leakim Medina. Mais on ne l'a pas fait, mais de toute façon, les mitzvot, on en est acquitté, même si on n'a pas fait la bracha. Rappelez quand même que la bracha de Shehriyanu a été prononcée lors de la déclaration d'indépendance. Oui.
Concernant le mouvement de Métro-Écartin,
oui.
On a l'impression que c'est la raison de radicalisation. Par exemple, le Rav Hirsch, qui est un conseiller de Arafat,
oui.
Pour l'expérience à Téhéran. Est-ce que.
Non, non, attention. Non. Tu demandes est-ce qu'il y a une radicalisation du Natore Karta. Puis tu cites ici donc le Rav Hirsch et ceux qui ont été voir Ahmadinejad, etc. Soyons bien précis. Hirsch ne représente que lui-même. C'est en fait un peu un fou, quoi. Il est considéré même par les gens de Meacharim comme un nu Ulberlu. C'est pas vraiment un phénomène qui mérite d'être appelé un mouvement. C'est une personne. Le fait qu'il y ait eu des antisionistes qui se sont rendus chez les Iraniens, etc., c'est un fait que l'on trouve chez des gens de cette mouvance, surtout quand ils sont en dehors d'Israël. Cette rencontre à Téhéran a été violemment condamnée par des gens de Natura Karta eux-mêmes à Jérusalem, rappelons-le. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Shalom.